En toute intimité, présenté par Thierry Bensamoun. En toute intimité.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios de Aura Vive Radio une personnalité que vous connaissez bien, puisqu'elle est à la fois personnalité communautaire et, comme elle va nous l'expliquer, également une personnalité dans la cité. Bruno Benjamin, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs.
Alors donc, j'ai envie de dire en résumé, mais vous allez un petit peu développer, vous êtes le président du groupe scolaire Gadami depuis une vingtaine d'années. Comme vous nous l'expliquiez hors antenne, c'est une fonction peut-être longue dans le temps, mais néanmoins pérenne, avec une équipe installée. Ensuite, vous avez été président du CRIF depuis 2016. Jusqu'à il y a encore quelques mois en arrière, puisque vous avez laissé votre mandat à Fabienne Bendaillon, qui est actuelle présidente du CRIF. Et dernièrement, vous avez créé une association avec là aussi plusieurs composantes, Implicité. Alors si vous voulez bien, on peut commencer par cette association Implicité. Parlez-nous un petit peu de ce nouveau-né.
Mais... Écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Merci à la radio Aura Vive. Implicité, c'est la contraction d'implication dans la cité. J'ai cette propension, en tous les cas, à essayer de... cette volonté, non pas d'essayer d'ailleurs, de faire dans la cité, parce que j'estime que lorsqu'on vit... dans une commune, on se doit de s'impliquer d'une part, de s'intéresser à la vie de la cité, de constater ce qui peut aller et ce qui ne va absolument pas, et de faire en sorte de rétablir justement, d'aider au rétablissement de ce qui ne va pas.
L'objet de l'association Implicité ?
L'objet, c'est un vaste objet parce qu'il va traiter de tout ce qui concerne la cité, y compris de l'interculturel. Parce que vous savez que ça me tient à cœur, je crois qu'on ne peut pas vivre dans une cité, malgré les grandes difficultés d'aujourd'hui. Hein, on n'est pas, les gens qui me connaissent savent pertinemment que je ne suis pas candide. Mais je crois quand même qu'on peut rétablir en tous les cas certaines choses. On peut convaincre certains partenaires, certaines personnes du bon sens en tous les cas, de faire en sorte de vivre... tous ensemble, de vivre dans un espèce de respect mutuel. Je crois que c'est ça qui m'anime. J'aime pas trop caractériser la chose par le vivre ensemble, parce que ça veut rien dire. Vous savez, quand vous vivez dans les quartiers nord et d'autres vivent dans les quartiers sud, vous pouvez pas vivre ensemble. Mais en tous les cas, on peut apprendre à vivre dans le respect, à respecter les valeurs universelles, à respecter ce que doit être la République, la démocratie. On est en plein dedans aujourd'hui, hein. on sort, ou j'espère en tous les cas qu'on est sorti des émeutes qu'on a connues ces derniers jours. Et à ce titre, il y a un vrai travail de fond à faire. Il y a le fait d'expliquer. J'étais avec, ce matin, j'ai échangé longuement avec une amie, ancienne politique, et qui on est tombé d'accord sur le fait que en 95, le président Chirac a arrêté le service militaire. Pour nous, c'est une erreur incommensurable. Incommensurable. Parce que c'était un vecteur social. C'était le fait d'apprendre ce qu'était la République, ce qu'était l'autre. On découvrait l'autre, y compris dans ses différences. On va tout faire. On a quelques contacts au niveau national, au plus haut niveau de l'État, pour que le président de la République rétablisse le service militaire. Je crois que c'est une nécessité absolue, une véritable nécessité absolue.
Bruno Benjamin, vous nous avez dit à travers cette association que vous avez une vocation interculturelle. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire finalement...
Vous êtes président de cette association fondateur, vous avez à vos côtés des membres qui représentent cette interculturalité.
Tout à fait, au moins une musulmane dans cette association. Je parle au niveau donc du conseil d'administration, parce que bien évidemment d'autres personnes vont nous rejoindre et qui seront vraisemblablement aussi avec nous, alors soit bien évidemment au comité, enfin au conseil d'administration, ou soit, si vous voulez, ce qu'on peut appeler aussi des militants qui vont œuvrer à chaque événement que nous créerons, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un staff très important. Le principe, si vous voulez, c'est d'animer les rencontres qui peuvent se faire entre les différentes ethnies de cette ville de Marseille, que ce soit des juifs, des chrétiens ou des musulmans, ou des athées tout simplement.
Des Marseillais.
Des Marseillais dans leur ensemble. D'ailleurs, la manifestation s'appellera « Tous Marseillais », parce que je crois que c'est ça l'essentiel, c'est de se rappeler d'où on vient, qui on est, dans quoi nous vivons et dans quelle ville nous vivons. Et je crois que cette ville, elle a ce particularisme, en tous les cas, de mettre en ébullition, d'accord, de mettre en ébullition les différentes rencontres, justement, que nous avons créées ou qui ont été créées par d'autres, en tous les cas, toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Donc pour moi, c'est extrêmement important, parce que je crois en l'avenir, je crois au fait qu'on peut finalement tomber sur un tronc commun, sur un accord qui permette finalement de vivre dans ce que je disais il y a encore quelques minutes, vivre dans le respect.
Alors, Tous Marseillais, c'est un très beau projet, c'est un beau slogan d'ailleurs, hein, on y aspire tous à être Marseillais, mais y a-t-il pas des difficultés lorsqu'on veut lancer ce type de projet, alors que soi-même, on a incarné le CRIF, on incarne encore donc une école juive, puisqu'on sait, vous intervenez dans la presse, dans la Provence, vous intervenez sur les réseaux sociaux. On vous connaît, si je puis dire, vous êtes une personnalité publique, j'ai même presque envie de dire une personnalité politique, mais peut-être pas encore, vous nous en direz peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, est-ce qu'il n'y a pas un blocage dans le dialogue, justement, du fait qu'on ait ce passé clairement juif, clairement communautaire, donc Benjamin.
Pour vous dire la vérité, au tout début de ma démarche, donc fin 2016, effectivement, il y a eu un blocage. Beaucoup ne voulaient pas m'entendre ou me rencontrer parce qu'ils estimaient que le CRIF était à l'instar de ce que pouvait représenter. Alors, je vais peser mes mots, mais si vous voulez, ça voulait dire ça, c'était considéré un peu comme le Satan. Voilà, le CRIF, pour certains, finançait l'État d'Israël avec 250 000 euros de budget quand Israël gère plusieurs milliards de shekels. Donc, si vous voulez, il y a eu effectivement cette difficulté au départ. Après, j'ai insisté, parce que vous me connaissez un peu Thierry par ailleurs, je ne suis pas de ceux qui lâchent facilement. Donc j'ai insisté, j'ai réussi à inverser les choses, à force de travail, à force de conviction, à force de mettre beaucoup, beaucoup de détermination dans ma démarche. Donc ceux qui étaient opposés m'ont rencontré, d'abord en catimini, après on s'est rencontrés officiellement, publiquement, ouvertement. Et là, il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée parce qu'ils ont bien vu que j'étais intéressé finalement par rien d'autre que le fait de créer ces conditions pour pouvoir échanger. Donc je crois que c'est ça l'essentiel. Moi, je retiens que ça en tous les cas. Vous savez, je suis pas rancunier. J'ai pas d'état d'âme sur la chose. Vous savez, au début, on m'a pris pour un fou. Certains m'ont pris pour un fou en me disant « Mais où tu vas ? Tu vas contre le mur. C'est une démarche qui n'est plus d'actualité, etc. » Et j'ai pris à contresens peut-être effectivement tous ces gens. Et aujourd'hui, ceux-là même qui me disaient « c'est pas une bonne démarche », aujourd'hui la soutiennent parce qu'ils ont vu, si vous voulez, les bienfaits. Le fait de faire venir 2000 ou 2500 personnes, essentiellement des quartiers nord, issus de l'immigration, je veux dire, pour moi, c'est un accomplissement, parce que un juif qui réussit à faire ça avec l'aide de tous, bien évidemment, je n'étais pas seul, hein, je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont aidé, ils se reconnaîtront, et musulmans ou autres. C'est quelque chose de, je trouve, d'assez extraordinaire. La dernière manifestation a eu lieu au Palais des Sports. Beaucoup de monde sont venus la fréquenter. Il n'y a pas eu de regard disgracieux, méchant, des femmes voilées, des hommes musulmans étaient assis aux côtés de femmes juives et aux côtés d'hommes juifs qui portaient la kippa. je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de tension. Il n'y a pas eu aucune tension. Donc ça, ça prouve bien qu'à partir du moment où on crée les conditions d'une rencontre, d'accord, dans un certain apaisement, en ayant comme optique le fait qu'il y ait des échanges, y compris sur l'interculturel, mais surtout sur le fait qu'on on est rassemblé par une ville qui nous anime. Je crois qu'on oublie tout ce qui peut être négatif.
Alors, c'est très encourageant ce que vous êtes en train de nous dire, Bruno Benjamin. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation au micro de Aura Vive Radio. C'est une première pour cette petite radio neuve, nouvelle, qui n'a qu'un an. Mais néanmoins, vous connaissez également les médias. Que pensez-vous des web radios, si vous avez un avis là-dessus ?
Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. De toute façon, aujourd'hui, on est à l'heure de la communication, à l'heure de l'information vraie ou fausse, malheureusement. On sait que les réseaux sociaux ou galvaudés, les réseaux sociaux sont un moyen de diffusion hyper moderne, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a encore quelques temps, on était obligé de s'adresser à des journalistes, envoyer un communiqué de presse. Demandez aux journalistes qu'ils fassent passer votre communiqué de presse ou votre tribune. Aujourd'hui, ça va tellement vite que chacun d'entre nous, les millions ou les milliards que nous sommes, sont leurs propres journalistes. Donc c'est quelque chose, je trouve, d'extraordinaire. Alors, le problème de fond, bien évidemment, comme dans toute chose, il y a aussi, malheureusement, des dérapages. Il y a des désavantages, il y a des inconvénients qu'il faut juguler. Et ça, il faudrait que les GAFA, justement, intègrent le fait qu'on doit réguler la chose et certainement pas la laisser en l'état. Parce que quand je vois sur certains réseaux où on fournit une liste de juifs et on appelle à les génocider, c'est des choses, bien évidemment, qui sont choquantes, qui n'existaient pas par le passé. Donc il y a eu un redoublement, effectivement, un accroissement de tout ce qui est antisémite, raciste, tous les travers que peut connaître notre société, bien évidemment.
Une dernière question avant de faire une première pause musicale, et ensuite on viendra même, je l'annonce, au sujet de votre positionnement vis-à-vis des composantes politiques actuelles de notre société, à savoir des différents partis. Mmh. Cette dernière question, Bruno Benjamin, avant cette pause. Aujourd'hui, vous êtes donc président du GADAMI. Est-ce qu'il est difficile de présider une école juive dans le centre-ville de Marseille après toutes ces tensions que la ville a connues ? Ou bien, c'est un challenge de plus, c'est un pari et rien n'est impossible.
Non, moi je crois qu'en réalité tout est compliqué parce que nul n'est à l'abri, d'accord, on le sait. J'ai coutume de dire qu'un juif quand il naît, je choque quand je dis ça, mais je choque volontairement parce que je suis aussi un peu provocateur, mais je veux surtout éveiller les consciences. Quand un juif naît, il a une cible dans le dos, c'est une réalité. On peut dire ce qu'on veut, on peut philosopher, on peut écouter le contraire aussi. Il y a des gens qui vous diront le contraire. Moi, je dis que lorsqu'un juif naît, il a une cible dans le dos, on le sait. Je dis que l'antisémitisme est séculaire.
C'est-à-dire ?
Qu'il existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, d'accord ? Je dis qu'il existera encore toute la période de la nuit des temps. Voilà, je crois qu'il existera de manière éternelle, parce que c'est comme ça, parce qu'il se transmet de génération en génération. Il n'y a pas eu un stop, Pourtant, il y a eu dans l'histoire des hauts et des bas. Il y a eu la Shoah, on aurait pu penser qu'après la Shoah, tous les antisémites rangent leur argumentaire dans leur grenier et oublient cette façon, en tous les cas, de délégitimer le juif ou de le stigmatiser. Malheureusement, non. Donc, on en est là. Il faut, je crois, vivre avec, l'avoir en conscience, mais ne pas, finalement, penser jour et nuit qu'à ça. Quand on est dans la rue, on sait qu'on a peut-être une cible dans le dos si on y est identifié comme tel, mais on continue à se mouvoir, on continue à marcher, on continue à échanger, on continue à agir, et c'est ça le principe de base. Donc, je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit.
Bruno Benjamin est notre invité aujourd'hui sur Aura Vivre Radio. On se retrouve tout de suite après
une première
frange musicale.
En toute intimité, présenté par Thierry Bensamoun. En toute intimité.
Plus près de vous, Aura Vivre Radio, Thierry Bensamoun au micro, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Benjamin, que l'on retrouve donc pour cette seconde et dernière partie d'émission. Bruno Benjamin, volontairement, eh bien on va vous appeler le président de l'association Implicité. Maintenant, nous allons venir dans ce deuxième volet à parler d'Israël, à parler des partis politiques français, et ce qui pourrait être considéré comme quelque chose comme illusoire, la capacité peut-être de ramener certains partis à une meilleure vue d'Israël, une vue objective, si tant est que l'objectivité existe. Alors, vous, à travers Implicité, je le rappelle en deux mots, association pluri ou intraculturel, avec une vocation de rapprocher les Marseillaises et les Marseillais, quelle que soit leur obédience, parti, opinion politique ou religieuse. Aujourd'hui, nous avons dans le paysage politique français des partis, plus de partis socialistes quasiment, si ce n'est à la mairie de Marseille, on a un maire de Marseille qui est encore un maire socialiste, mais le socialisme tel qu'il existait sous Mitterrand et après, eh bien, est en passe de disparaître complètement. Et on entend beaucoup parler des extrêmes, ces extrêmes qualificatifs que que je donne à la presse, hein, extrême droite, extrême gauche, comment, à votre avis, peut-on discuter, dialoguer avec ces partis qui semblent eh bien, être sourds à toute revendication de rapprochement?
Si vous voulez, il y a deux positionnements. Soit on les ignore.
C'est un peu ce qu'a fait la communauté juive depuis très longtemps.
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, depuis notamment l'avènement du Front National et ensuite du Rassemblement National. Pour l'extrême gauche, c'est assez récent. Donc le positionnement est le même qu'à l'égard de l'extrême droite. Mais si vous voulez, je me demande.
On les ignore ou on leur ferme la porte complètement. On ne veut pas dialoguer avec eux.
Bah, les ignorer, c'est ne pas dialoguer non plus. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense, personnellement, et là, c'est Bruno Benjamin qui vous parle.
C'est pour ça que j'ai dit implicité.
C'est pas l'ancien président du CRIF ou le président d'honneur, on appellera ça comme on veut. Moi, je pense que c'est une erreur. J'ai été obligé de défendre cette ligne lorsque j'étais au CRIF, puisque c'était... le leitmotiv national, général, de l'ensemble des CRIF. Moi, je pense que c'est une erreur pour une seule raison. C'est que je pars du principe que si on veut convaincre, peut-être pas un ensemble, mais certaines personnes, il faut aller échanger avec eux. Les convaincre en les ignorant, vous m'expliquerez comment on peut faire, pas vous Thierry, mais tous ceux qui disent qu'il faut les ignorer, donc... Je leur pose la question, comment faire pour les convaincre si on n'a pas de dialogue avec eux, s'il n'y a pas d'échange, d'inter-échange, je ne vois pas comment on peut les convaincre. Donc moi, je suis partisan du dialogue, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, avec y compris certains radicaux de l'islam, où j'ai été échangé avec eux. Parce que d'abord, j'étais curieux...
À Marseille ?
Oui, bien sûr. J'étais curieux de savoir ce qu'ils avaient au fond du cœur et dans leur cerveau. Donc j'ai appris énormément en échangeant avec eux, d'accord ? Ça m'a permis aussi de trouver des arguments pour les convaincre qu'ils étaient dans un positionnement qui était...
erroné.
Erroné, en dépit du bon sens, etc. Donc je crois, moi, qu'il faut aller échanger avec eux. Rester sur nos positions, affirmer nos positions, affirmer nos convictions, affirmer nos idées. Affirmer l'ensemble de ce que nous représentons, mais je crois qu'il faut aller échanger avec eux. Et je trouve, encore une fois, que nous faisons l'erreur dans la communauté de les ignorer, même si je sais aussi, parce que je ne suis pas naïf, qu'il y a eu des rencontres discrètes, confidentielles, etc. Mais alors,
Il y a des personnes, Bruno Benjamin, qui incarnent ce dialogue, je pense à l'imam Chagouni, l'imam de Drancy.
Mais lui, il n'est pas extrémiste.
Oui, donc vous êtes en train
il
de dire...
Il est déjà convaincu.
Bon, bah, alors, il est pas déjà la personne convaincu. qui va vous intéresser.
Moi, c'est un ami. D'accord, quand il vient à Marseille, il m'appelle, on se voit, on dîne, on déjeune ensemble, on est très proches. Mais il est déjà convaincu. Parce que c'est un humain. Parce que c'est un garçon qui a qu'un mot dans la bouche, la paix. Donc il est déjà convaincu, c'est les autres qu'il faut aller convaincre.
Voit le mal que lui-même a à convaincre sa communauté, les menaces qu'il a sur lui. Donc on voit que déjà à l'intérieur de sa communauté, soi-même imam musulman, s'il a du mal, alors quels sont vos espoirs, quelles sont vos chances d'y arriver ?
C'est justement par un étranger à cette communauté que, si vous voulez, là, finalement... Le bon côté des choses peut arriver. En sachant que si on envoie un imam essayer de convaincre sa communauté, un imam qui est, désolé de dire ça comme ça, ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de musulmans, c'est un répulsif pour eux. D'accord ? C'est un répulsif pour eux. Il le sait. J'ai même organisé des événements avec lui discrets pour justement essayer d'échanger dans ce sens. Je crois, moi, que le bon geste, le geste salvateur, viendra de quelqu'un qui est extérieur, viendront de personnes qui sont extérieures à cette communauté. Parce que il faut savoir une chose, c'est quand vous discutez avec un musulman, pour lui, vous lui donnez de la considération. Quand vous l'ignorez, c'est là où il devient méchant. Parce qu'il ne comprend pas forcément. Pourquoi on l'ignore ? Parce
d'ailleurs,
que même s'il a des idées...
C'est une réaction humaine.
C'est une réaction humaine. Donc, même si on a des idées complètement différentes de sa pensée, de ce qu'il peut être, de son comportement, il faut aller échanger avec eux. Il faut aller échanger avec eux, avec l'extrême gauche aussi, et avec l'extrême droite.
Alors comment...
Ça, c'est mon opinion en tant qu'acteur citoyen.
Par quels moyens pensez-vous arriver... à faire changer d'avis, par exemple, un militant politique, quel qu'il soit, qui va parler d'un État d'Israël, État d'apartheid.
Mais d'abord, je ne cherche pas à le faire changer
d'avis.
Je cherche à lui donner une autre vision, à lui apporter la contradiction des choses. Aujourd'hui, ils n'ont pas la contradiction. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'adresse pas à eux. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un côté de l'iceberg. Ils ne voient pas l'autre versant. Parce que justement,
ils ne veulent pas le voir.
Ils ne veulent pas le voir. Mais si vous les contraignez à ça, en allant échanger avec eux, autant faut-il qu'ils acceptent de vous rencontrer. Mais au fond, si vous allez échanger avec eux, il y a une partie de l'échange qui restera dans leur esprit. Ils n'auront plus exactement la même vision de ce qu'ils se sont fait de l'État d'Israël. Et c'est là où il faut arriver. C'est pas forcément chercher à les convaincre qu'ils deviennent des alliés, mais leur apporter la contradiction. C'est ça qui est important, leur donner des informations qu'ils cherchent pas à avoir ou qu'ils n'ont pas, ou qu'ils éludent volontairement.
Alors, par quels moyens ? Un voyage sur place en Israël ?
Oui, ça c'est la meilleure façon de convaincre. D'abord, préparer ce voyage avec eux, échanger avec eux sur les conditions de ce qu'est cet État d'Israël. D'accord ? Mettre comme préalable que le peuple juif a le droit à son autodétermination. C'est ce en quoi on est arrivé en 1948 à la création de l'État d'Israël. Si ce préalable est accepté, on part en Israël, on le convainc. Parce que 9 fois sur 10, tous les voyages que j'ai faits, auxquels j'ai participé ou organisé, peu organisé, mais j'ai participé à énormément de voyages. À chaque fois, ceux qui sont partis avec des clichés, des préjugés, sont revenus sans plus aucun préjugé, sans plus aucun cliché. Alors le problème, c'est que ça vaut très cher maintenant, que lorsqu'on emmène 20 ou 30 personnes, ce n'est pas des milliers de personnes, mais il faut aller choisir les faiseurs d'opinion, les relais d'opinion, ceux qui peuvent nous aider à transmettre la vérité, la réalité israélienne.
Sur Marseille, nous avons un front national, un rassemblement national qui est largement représenté, pas que sur Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Comment envisagez-vous avec eux, si vous l'envisagez, ce type de dialogue ? Puisque eux, ils ne parlent pas d'état d'apartheid avec Israël, puisque paradoxalement, ces dernières années, on a presque envie de voir, ces derniers mois, on constate que c'est presque les seules personnalités politiques à l'Assemblée nationale notamment, qui défendent clairement l'État d'Israël.
Mmh.
C'est quand même c'est incroyable.
C'est un non-sens, vous diront certains. Ouais. D'accord ? C'est même un paradoxe, mais c'est une réalité.
Est-ce que ce n'est pas un piège ?
Peut-être. Pour certains, peut-être. Pour certains, peut-être. On n'a pas la faculté, enfin moi, je n'ai pas la faculté, en tous les cas, d'aller voir ce que pense réellement chaque personnalité, ce qu'il y a forcément dans le cerveau de chaque personnalité. Peut-être que c'est un piège. Sauf que le piège, je ne vois pas très bien où il est. Parce que la communauté juive aujourd'hui, c'est 500, 600, 700 000 personnes en France. Combien y a-t-il de votants dans cette communauté ? Alors c'est vrai qu'à Marseille, on est très représenté, à Paris aussi. D'accord ? Mais on s'aperçoit aussi que lorsqu'une élection est passée, vous savez, il y a des cahiers d'émargement dans chaque bureau de vote, on s'aperçoit que les Juifs n'ont pas été forcément votés. C'est justement pour ça que je crois qu'à un moment ou un autre, chacun d'entre nous est responsable de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il fait, y compris lorsqu'il y a une campagne électorale, lorsqu'il y a un vote qui doit s'exprimer. Je me suis refusé en 2022 d'appeler à voter pour cette personne ou contre celle-là. J'ai laissé le choix aux Juifs parce que j'estime qu'on ne doit pas infantiliser les électeurs. Ce ne sont pas des tarés, les électeurs. Ils ont une conscience, ils ont un cerveau. Et mieux que ça, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. quand ils ont décidé quelque chose, ils iront jusqu'au bout de leur démarche, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait intelligent. On ne peut plus, il faut arrêter de dire barrage à un tel, ou on vote contre un tel, ou on vote pour un tel. Je crois que les électeurs ne sont pas des débiles, les électeurs se font une idée précise, ou imprécise d'ailleurs, de tel ou tel candidat, mais c'est à eux à décider.
Alors, on va arriver au terme de cette émission, de cet entretien, Bruno Benjamin. Un entretien, on le savait, qui serait très riche, qui me surprend personnellement, parce que je vous connais depuis une bonne vingtaine d'années. Personnalité forte, avec beaucoup de caractère, de tempérament. Et là, on entend une personne particulièrement intéressée par l'ouverture. Est-ce qu'il y a derrière cela un projet politique, Bruno Benjamin ?
Non. Enfin, on me prête beaucoup de choses, sincèrement, parce que ça me revient.
Vous comprenez ma question ?
Oui, je comprends, mais de toute façon, ça me revient. Donc, si ça me revient à moi, ça revient aux autres. De la même façon, on m'a même laissé sous-entendre qu'on avait déjà choisi un secteur pour moi. Non, sincèrement, en tous les cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas demain. Ça, je n'en sais rien, parce que je ne fais pas partie de ceux...
C'est au moins honnête de votre part.
Je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas partie de ceux qui disent jamais, ça n'arrivera jamais. J'ai à l'esprit une déclaration de Dupond-Moretti, où on lui pose la question, est-ce qu'un jour vous deviendrez garde des Sceaux ? Il a dit, moi, jamais, au grand jamais, etc. Donc ça, je ne le dirai jamais. Par contre, ce n'est pas une aspiration personnelle. Voilà, sachez-le. Si je le fais demain, je le ferai que pour aider. Que pour aider. J'ai pas besoin de ça. Tout le monde le sait.
C'est important ce que vous dites, puisque cette émission s'appelle En toute intimité. À titre personnel, vous êtes un chef d'entreprise. Mm-hmm. On l'oublie, hein. Ou peut-être que ça paraît être quelque chose de secondaire. Mais si demain, ou si aujourd'hui, ou si hier, vous êtes un homme politique, vous êtes d'abord un chef d'entreprise qui ne vivait absolument pas de tout ce
système.
Microcosme, voilà.
Non, absolument. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de ça. Je suis complètement épanoui. Il y a qu'une chose qui m'anime, parce que je crois au plus profond de cette chose, c'est aider l'autre. Et à chaque fois, aujourd'hui, j'ai plus de fonction officielle, sauf en tant que président de cette association ou du GANAMI, du groupe scolaire GANAMI. À chaque fois qu'on m'appelle, à chaque fois qu'on me sollicite, je suis toujours là. Je suis toujours là parce que je suis, comme vous l'avez dit, j'ai été une personnalité publique ou je le suis encore. Peu importe, en tous les cas, j'ai la chance d'avoir quelques connexions. Si ces connexions servent à soutenir, à aider, à rendre service, je dis oui. Si elles servent uniquement à moi, à me faire plaisir à moi, je dis non parce que je n'ai pas cet état d'esprit. Ceux qui me connaissent le savent pertinemment, je n'ai pas cet état d'esprit. J'ai toujours été quelqu'un qui a essayé d'apporter à une collectivité, à une communauté, à un rassemblement, à un ensemble de personnes. C'est ce qui m'anime.
Pour mieux vous connaître, on va retenir le nom de votre association, Implicité, peut-être un site internet ou en construction,
pas encore,
qui va se développer
oui,
sur les activités, puisque vous nous avez parlé des projets, de ce Tous Marseillais.
Tout à fait. Tout ça va être développé à partir de la rentrée. Vous savez, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on essaye d'asseoir l'institution, parce que je considère qu'une association est d'ores et déjà une institution, c'est un acteur, on essaye de l'avoir, on trouve des financements aussi, parce qu'on va mener des actions qui vont coûter quand même un peu d'argent, et on veut s'établir comme, ou rester pour certains, comme un acteur citoyen, pour continuer à œuvrer pour cette ville, parce que je crois que cette ville a le mérite, c'est une belle ville, d'accord, malgré quelques travers, mais on sait aussi que ces travers sont pour nous, finalement, ce qui nous oblige, ce qui nous contraint à aller de l'avant et à faire en sorte de les gommer. Donc, j'ai mal quand on parle de la réputation de Marseille, parce que Marseille, c'est pas pire qu'ailleurs. D'accord ? Il y a effectivement, encore une fois, quelques clichés qui sont difficiles à effacer, mais on se bat pour ça et on fait surtout en sorte de faire ressortir l'aspect positif de cette ville. L'aspect positif, c'est que ici, les communautés, tant bien que mal, vivent dans une paix relative et j'espère que cette paix continuera à perdurer.
Oui, c'était d'ailleurs le but de Marseille Espérance. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de Marseille Espérance qui réunit, rappelons-le à nos auditeurs, les dignitaires religieux de tous bords. Et c'est vrai que cela me fait penser un petit peu implicité à Marseille Espérance. C'est peut-être pas votre ambition, mais néanmoins, ça y ressemble.
Écoutez, tout ce qui est fait en tous les cas pour que les uns et les autres puissent vivre tranquillement dans leur microcosme ou pas d'ailleurs, pour ceux qui s'ouvrent à la ville avec grand plaisir, mais en tous les cas faire en sorte que nous connaissions que des bonnes choses, sans violence, que nous puissions échanger, même si on n'est pas d'accord, sans obligatoirement finalement se confronter dans une espèce d'animosité ou d'énervement ou de violence. Voilà.
Eh bien Bruno Benjamin, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Merci Thierry de m'avoir invité, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez de jolis locaux, je voulais remercier Serge aussi, Amselem, qui est le créateur de cette radio avec d'autres certainement. En tous les cas, je vous souhaite longue vie. Je vais dès aujourd'hui commencer à faire la promotion de Aura Vive. Voilà.
Merci beaucoup et on vous recevra peut-être lors du lancement de votre premier événement avec
plaisir.
Implicité.
Avec plaisir. Merci en tous les cas. Merci aux auditeurs.
À très bientôt, chers auditeurs. Serge Amselem, merci beaucoup d'avoir réalisé cette émission et de nous avoir permis de monter, réaliser, communiquer au travers cette belle radio.
En toute intimité, présenté par Thierry Bensamoun. En toute intimité. Aura Vive, plus près de vous.